VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. Les Burundais attendaient aujourd'hui, sans tension ni suspense, les résultats de la présidentielle qui devrait entériner la réélection de Pierre Nkurunziza, dont la candidature controversée à un troisième mandat a plongé le pays dans sa plus grave crise depuis la guerre civile. La ville de Bujumbura est calme ce vendredi, selon l'AFP. La vie y était normale, les magasins et entreprises ouverts et les habitants vaquaient à leurs activités. La candidature controversée du président Nkurunziza à un troisième mandat a plongé le Burundi dans une grave crise politique émaillée de violences, ayant fait plus de 80 morts depuis fin avril. Plus de 160 000 Burundais ont fui dans les pays voisins. Un climat préélectoral délétère. Le président américain Barack Obama arrive aujourd'hui au Kenya, pays natal de son père, pour participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi, sa deuxième étape en Afrique, Addis Abeba, en Éthiopie. Plusieurs organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, accusent les gouvernements de ces deux pays de violation des droits de l'homme et exhortent le président Obama à promouvoir le respect des libertés fondamentales pendant son séjour en Afrique. Idrissa Seydoudia.
Le chef de l'exécutif américain se promet de mettre l'accent pendant son périple africain sur la croissance économique. Elle dépend, souligne-t-il, de la bonne gouvernance, d'institutions démocratiques fortes, de la liberté d'expression et de presse, d'une vigoureuse participation de la société civile et du respect des droits de l'homme. Certains pays africains ont fait des progrès impressionnants dans ce domaine, mais d'autres pas, a écrit M. Obama dans une contribution au Route, un site web essentiellement africain-américain. Sa visite, a-t-il ajouté, sera l'occasion d'aborder ces questions sans ambages, publiquement et en privé, dans ses conversations avec ses hôtes. Outre la menace terroriste que fait peser sur la région Al-Shabaab, la milice islamiste somalienne.
Au Bénin, le marché des alliances politiques est grandement ouvert pour les élections des maires et de leurs adjoints. Après la proclamation des résultats des élections municipales et communales, des précisions avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Les nouveaux élus seront installés dans les tout prochains jours dans leurs fonctions par les préfets et procéderont ensuite à l'élection des maires, ce qui passera forcément par le jeu des alliances. Mais une question subsiste. Ceci se fera-t-il dans l'intérêt des populations? Réponse de Lancelot Aguiar, il est membre de l'alliance ABT.
Les gens avec qui il faut discuter, sont des Béninois, ont été élus conseillers dans cette localité-là. Donc les alliances ne peuvent être que sur l'autel de l'intérêt supérieur des populations à la base.
Encore 10 jours et le marché des alliances sera ouvert dans les mairies du Bénin. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Au Niger, à peine annoncé, le chronogramme des élections de 2016 divise la classe politique. L'opposition jugeant les dates choisies favorables au pouvoir parce que les présidentielles sont prévues avant les élections locales. Des détails avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Le chronogramme prévoit le premier tour de la présidentielle pour le 21 février 2016. Il sera couplé aux élections législatives. En cas de second tour, le scrutin aura lieu le 20 mars 2016 et c'est en mai, le 19 précisément, que les élections au niveau communal, départemental et régional seront organisées. Ce chronogramme a été adopté de façon consensuelle selon des sources proches de la Commission électorale nationale indépendante par l'ensemble de ses membres au cours d'une session plénière. Les partis politiques de l'opposition crient au scandale. La Commission électorale nationale indépendante a expliqué le choix d'un tel ordre séquentiel des élections par les contraintes de temps et de disponibilité du fichier qu'elle n'aura que vers la fin du mois d'octobre. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Il est 14h05 dans l'état du Borno au Nigeria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont condamné fermement les attentats suicides de Boko Haram à Maroua, au Cameroun, et les multiples attentats à la bombe dans la ville septentrionale de Gombe, au Nigeria. Le point avec Camille Gros-Didier.
Dans un communiqué, le porte-parole du département d'État, Mark Turner, qualifie ces attaques perpétrées cette semaine d'horribles et aveugles. Il fustige le recours par Boko Haram à des enfants utilisés comme kamikazes, ciblés systématiquement des civils, des femmes et des enfants, témoigne selon lui de la brutalité insensée du groupe. Les États-Unis restent déterminés à appuyer les forces de sécurité du Cameroun, du Tchad, Niger et Nigeria dans leur guerre d'usure contre la milice, a-t-il poursuivi. Ils continueront de soutenir les gouvernements et les peuples de la région du bassin du lac Tchad dans ce combat. Par ailleurs, ajoute le département d'État dans son communiqué, les États-Unis se félicitent à l'avance d'élargir leur soutien sur une base bilatérale et à travers la Joint Task Force, la force multinationale contre Boko Haram, qui sera coordonnée par les pays du bassin du lac Tchad et le Bénin. Les attentats de Maroua et Gombe ont fait plus d'une soixantaine de morts et des dizaines de blessés.
Les autorités camerounaises ont décidé d'étendre l'interdiction du port du voile intégral aux régions de l'Est et du littoral pour prévenir le risque d'attentats dans le pays, et cela au lendemain d'une attaque suicide qui a fait, vous le savez, 13 morts et 31 blessés vendredi. A-t-on appris vendredi de sources officielles, cette mesure avait déjà été instaurée la semaine dernière dans l'extrême nord, la région frontalière du Nigeria, en proie aux islamistes de Boko Haram. Et le dossier de ce journal nous conduit au Gabon. Les enseignants et chercheurs sont en grève depuis lundi à l'université Omar Bongo de Libreville, établissement qui connaît depuis longtemps des moments difficiles après une période fastueuse ayant duré jusqu'aux années 1980. Le reportage de notre correspondant dans la capitale gabonaise, Jean-Rovis Dabani.
Ils réclament le paiement de leurs primes et l'augmentation de leurs salaires. Près de 250 enseignants sont directement concernés. L'auteur Messi Mena enseigne l'histoire à l'université Omar Bongo.
Nous revendiquons nos primes d'installation de la recherche que nous avons perçues depuis deux mois maintenant. Nous revendiquons aussi les bons de caisse, c'est-à-dire nos salaires du mois de mai qui n'ont pas été payés jusque-là. Le gouvernement nous reproche d'avoir pas travaillé ce mois. Or, les attestations de présence au poste attestent effectivement que nous avons travaillé ce mois. Donc nous revendiquons que ce mois nous soit effectivement payé. Pourquoi nous faisons un sitting ici au niveau de l'université, qui est la mère des universités du Gabon, pour montrer à l'opinion notre mécontentement face à ce traitement arbitraire du gouvernement.
Cette grève intervient alors que plus de 20 000 écoliers se préparent à passer le baccalauréat à partir de lundi. Et réunis en assemblée générale jeudi, les enseignants qui restent ouverts aux discussions ont décidé de boycotter cet examen. Patrick Mumbo est le secrétaire général de l'un des syndicats des enseignants du primaire et du secondaire.
L'action que nous avons, disons, posée aujourd'hui consiste à boycotter le baccalauréat. Ce boycott est lié à un certain nombre de faits, c'est-à-dire la rétention des salaires aussi bien au niveau de l'éducation nationale qu'à l'enseignement supérieur. Il se trouve qu'à l'éducation nationale, depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, plusieurs enseignants, en l'occurrence les leaders syndicaux en majorité, sont privés arbitrairement et illégalement de leur salaire.
L'université Omar Bongo, sans moyens et souvent mal gérée, accueille les étudiants boursiers de l'État appartenant au groupe sociaux les plus vulnérables, enfants de paysans et d'autres travailleurs aux conditions modestes, ceci avec une maigre bourse, raison pour laquelle la grève est devenue l'unique moyen de pression contre le pouvoir. Originaire du sud du pays, Ornella, étudiante à la faculté de droit, vient d'une famille rurale pauvre. Pour elle, il ne fait aucun doute, ces grèves chroniques sont une volonté manifeste du pouvoir.
C'est une volonté manifeste des autorités de maintenir les étudiants dans ces conditions, dans la mesure où ils connaissent quelles sont les revendications des étudiants et ils connaissent quelles sont les portes de sortie, quelles sont les solutions pour remédier à ces problèmes, mais ils restent les bras croisés.
Signe de ce malaise, les gendarmes assiègent le campus depuis bientôt deux ans. Les résidences universitaires ont été fermées pour des raisons de sécurité, selon les autorités rectorales. Mais pour les nombreux étudiants, cette décision visait à les contraindre de rentrer chez leurs parents, car le gouvernement, disent-ils, les soupçonne de prendre part aux contestations contre le pouvoir. Malgré la multiplication des universités privées qui sont complémentaires aux institutions publiques, force est de constater que les conditions étudiantines ne sont pas du tout améliorées. Les étudiants ne vivent que de la bourse du gouvernement, 83 000 francs CFA par mois, qui tombent souvent en retard, pendant que les enseignants débutants touchent eux la somme de 250 000 francs CFA, l'équivalent d'un loyer. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Et la lutte contre le groupe État islamique, l'aviation turque, a effectué des raids aériens ce matin contre des positions du groupe dans la province frontalière syrienne de Kilis. Dans le même temps, vaste coup de filet de la police turque aujourd'hui contre les éléments de l'État islamique et des rebelles du PKK kurde dans 13 provinces en Turquie même. Et ici à Washington, le secrétaire d'État John Kerry et ses collègues de l'énergie et du trésor ont défendu lors d'une audience au Sénat américain hier l'accord nucléaire conclu la semaine dernière entre l'Iran et six grandes puissances, dont les États-Unis. Si le document est rejeté par le Congrès, le président Barack Obama a promis d'opposer son veto à cette décision. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain rendez-vous dans 50 minutes exactement.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.